Bonjour à vous, cher Emmanuel, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par elle-même de la philosophe Claire Marin. Bonjour Claire Marin.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
D'abord comme professeur de philosophie, puisque c'est quand même une grande partie de mon activité. Et après, plutôt peut-être comme médiateur.
Médiateur.
Entre la philosophie et un public qui ressent le besoin d'utiliser des concepts, d'y être initié, de repenser sa propre pratique avec ses outils, mais pas directement comme philosophe.
Mais ça, c'est votre travail d'enseignant, non?
Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire, dans mon travail, je suis aussi au contact avec des soignants qui sont aussi désireux de repenser leurs difficultés avec d'autres éléments de réflexion. Donc, c'est pour ça que je me sens un peu comme un intermédiaire.
Est-ce que c'est un métier, philosophe?
Oui, c'est un métier. C'est un métier qui, je crois, passe par une forme d'ascèse, par parfois un retrait à l'écart du monde, et c'est pour ça, en tout cas dans ma représentation peut-être très classique, très idéalisée du philosophe, c'était comme ça que je me le représentais pendant longtemps, et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression que ce soit le mien.
C'est un métier mais pas le vôtre?
Non.
Et vous caractérisez comme femme philosophe ou philosophe? Enfin, même si vous avez des réticences à vous qualifier de philosophe.
Je pense que le fait d'être une femme est un élément important. D'abord parce que c'est rare en philosophie, que ça exige peut-être une certaine pugnacité pour se faire une place au milieu de ceux qu'on qualifie de philosophe. Et parce que aussi, je pense qu'il y a des expériences qui sont encore impensées par la philosophie et qui doivent être pensées en philosophie. Et
vous
que ces expériences que les femmes peut-être vivent avec plus d'intensité, tout simplement ce que c'est que donner naissance, porter un enfant, s'inquiéter pour lui, c'est quelque chose qu'un père peut connaître aussi, s'inquiéter pour un enfant, mais... je pense que tout ce qui est, sans faire de philosophie genrée, parce que ça serait évidemment l'écueil, mais un certain nombre de domaines que la philosophie a pensé comme inférieurs et qu'elle a relégué facilement aux femmes, sont en fait absolument majeurs et doivent être repensés à leur juste valeur.
Nous allons passer 50 minutes ensemble, Claire Marin, pour comprendre votre pratique de la philosophie en remontant jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences, philosophiques ou non, en pénétrant dans votre atelier de fabricante de concepts et en réfléchissant au rôle politique du philosophe ou de la philosophe que vous êtes. Mais d'abord, s'il fallait identifier un thème autour duquel votre travail s'articule et les livres que vous avez publiés, ben ce serait pas forcément un concept, enfin vous avez pu en faire un concept, mais plutôt une réalité, une expérience qui est la maladie. Vous avez publié en 2008 un ouvrage bouleversant qui s'appelle « Hors de moi », dans lequel vous racontez votre quotidien avec celle que vous appelez votre maladie de compagnie. Une maladie auto-immune que vous ne nommez pas dans le livre et que vous décrivez comme s'attaquant à votre corps et qui a pour conséquence de vous projeter hors de vous-même, dans les deux sens du terme.
Oui.
Hors de votre corps, mais aussi folle de colère.
Dans la colère, oui.
C'était un point de départ pour votre travail, ce récit de la maladie?
En fait, j'ai travaillé sur le corps depuis longtemps, depuis mes études universitaires. Et puis, je crois que s'il y a un concept qui m'a toujours accompagnée, c'est le concept d'épreuve. Et puis, il y a un moment où le réel vient cogner à la porte, et où du coup, on a une expérience qui est tellement destructrice qu'il faut s'en saisir, la penser pour se repositionner autrement que passif, que subissant, que victime. Là, il y avait une vraie nécessité d'écriture, ce texte-là, Hors de moi, qui est un récit, il répondait à quelque chose, oui, de presque de vital, de retrouver une position et une énergie en faisant de cette expérience un objet de pensée, d'écriture, en changeant le rapport de pouvoir. Voilà, en écrivant dessus, mmh. on prend le dessus et on pose sur le papier ce qui nous a jeté à terre. Donc c'était la réponse nécessaire en fait pour se réintégrer dans une certaine énergie vitale.
Et la réponse passe par le récit, par l'écriture, plus peut-être que par la philosophie, car c'est vraiment un récit sans doute autobiographique, mais en tout cas ce n'est pas un essai philosophique.
Alors, l'histoire de l'écriture est la suivante, c'est qu'il y a eu en fait un premier texte qui s'appelait « Violence de la maladie, violence de la vie », qui a été publié en même temps, en fait la même année, mais qui a été écrit avant. Et en écrivant ce texte qui était un essai philosophique sur la maladie, je me sentais très frustrée par cette écriture un peu académique. Et tout ce que je n'arrivais pas à dire en le posant dans des cadres un peu universitaires, je l'ai réécrit autrement, en m'autorisant la première personne, en m'autorisant quelque chose de très personnel. Et c'est ça qui a donné Hors de moi, donc le récit.
Et à partir de ce texte-là, vous avez continué à travailler sur... alors, vous avez parlé de ce livre que vous avez publié en même temps, « Violence de la maladie, violence de la vie ». Vous avez aussi publié, plus tard en 2014, « La maladie, catastrophe intime »
oui.
aux éditions PUF, « L'homme sans fièvre » également, avant aux éditions Armand Collin en 2013. Ça veut dire qu'au-delà du récit de votre expérience, il y avait quelque chose dans la maladie qui attirait votre attention, qui vous donnait envie d'en parler, de la décrire, de la saisir peut-être cette fois-ci plus conceptuellement.
Oui, et puis il y a aussi le fait que ces livres ont suscité des réactions, ont engendré des rencontres, et que la question s'est aussi ouverte à la relation patient-soignant, à ce qu'est la santé, à toutes les normes qui tournent autour d'être normal ou pathologique. Donc ça a appelé en fait des développements qui sont nés beaucoup, oui, de rencontres, de sollicitations avec d'autres malades ou avec des soignants qui étaient aussi interpellés par la violence de ce que je décrivais, c'est-à-dire le fait de devenir un corps objectivé, morcelé, de se sentir abîmé dans sa subjectivité, maltraité humainement. Beaucoup de soignants l'ont reçu avec violence, comme si c'était une offense faite à leur dévouement, à leur... voilà, leur travail, qui est souvent excellent, et qu'ils font dans des conditions souvent déplorables. On y reviendra peut-être.
Oui, on y reviendra.
Et donc, il fallait aussi que je change de point de vue, que je parle plus non plus de la perspective du malade, mais que j'élargisse le champ d'analyse, que j'interroge aussi ce que c'était que le métier de médecin, d'infirmier, ce que c'était que être face à des normes de santé, ce qui fait que ça a pu aussi amener des discussions sur le handicap, sur un certain nombre de problématiques proches.
Mais ce que vous décrivez dans ce texte Hors de moi, même si ce n'est pas un texte, on peut dire, conceptuel ou philosophique au sens argumenté du terme, met en scène ce qu'on pourrait appeler scolairement des problématiques qui traversent toute l'histoire de la philosophie, notamment la question de l'identité. Vous écrivez « Cette maladie me met hors de moi, la colère dit cette insupportable dépossession, c'est de ma propre vie, de mon identité que je suis amputée, je ne suis plus celle que j'étais ». Là, toute l'histoire de la philosophie essaie de répondre à cette question et de décrire cette expérience.
Bah si on devait chercher effectivement des concepts qui sont récurrents dans mon travail, c'est effectivement les questions d'identité mises à mal par une épreuve. Et c'est vraiment cette question qui revient de manière peut-être un peu obsessionnelle, mais effectivement ce que l'épreuve... nous autres, ce dont elle nous prive et qui nous paraît essentiel dans notre définition de nous-mêmes, dans notre affirmation de soi, c'est ça la question qui est importante à mes yeux.
Et alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ? Est-ce qu'elle s'est faite suite à une épreuve, justement ?
Alors, il y a peut-être plusieurs rencontres. La première chose, moi, dont je me souviens, c'est d'avoir cherché des problèmes philosophiques, ou plutôt d'avoir été interpellée par des questions philosophiques dans des textes de littérature. C'est-à-dire que, avant la terminale, je n'ai pas lu de texte de philosophie, je ne savais pas que ça existait. Voilà, on ne m'avait pas prévenu. Et par contre, j'ai toujours beaucoup lu de littérature et j'avais ce petit cahier où je notais les phrases qui me faisaient réfléchir pendant longtemps et qui faisaient que je me posais des questions qui étaient en fait évidemment des questions philosophiques, mais sans que je puisse vraiment les identifier comme telles. Et puis après, il y a peut-être une anecdote, mais quelque chose comme un rapport de défi à la philosophie, qui est que j'avais récupéré quelques vieux livres de mon père, parmi lesquels les méditations métaphysiques, que je lui avais demandé de quoi ça parle.
Votre père était philosophe ?
Pas du tout, mais ça faisait partie de ses livres de lycéens, et je les avais récupérés pour les mettre dans ma bibliothèque, parce que j'en voulais le plus possible. Et je lui demande de quoi ça parle, et il me dit « Ah ça, c'est un livre vraiment très 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 compliqué ». Et il suffisait de dire ça pour que j'ai évidemment très envie, par la suite, de réussir le défi de comprendre ce qui était très compliqué aux yeux de mon père.
Et en terminale, il y a un déclic qui s'est fait en lisant quelque chose ?
En terminale, j'ai eu un professeur formidable, donc ça a joué sans aucun doute un rôle, qui était quelqu'un d'extrêmement exigeant intellectuellement, et dont l'approche philosophique alliait vraiment la rigueur logique et la précision conceptuelle. Il y avait quelque chose que j'aimais bien dans le fait de conjuguer une dimension assez scientifique, de poser un problème, le détailler, voir les liens logiques, pas passer à côté dans des maillons de la chaîne, etc. J'aime bien cette construction intellectuelle. Et puis après, les enjeux spirituels, métaphysiques, ontologiques, etc. J'aimais bien qu'il y ait cette double dimension, de quelque chose de spirituel, quelque chose d'un peu logique, hein, un peu quelque chose qu'on pourrait défendre et qui est difficile à construire. Il y avait un défi intellectuel.
Et à partir de quand avez-vous choisi d'en faire votre métier ?
Alors le problème, c'est que le métier donc de philosophe n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est le métier de professeur de philosophie. Disons que c'est pas moi qui ai choisi. Là, sur le coup, j'ai un peu suivi les rails de la scolarité, de la classe préparatoire, puis de l'école normale supérieure, qui à l'époque nous préparait à devenir uniquement professeur, donc j'ai bêtement obéi. Mmh. Et c'est comme ça que je suis devenue professeure de philosophie, mais je n'aurais pas parié dessus. A priori, je me voyais plutôt écrire que parler. Et il se trouve que ça m'a plu, pas tant de parler peut-être, mais de transmettre. Donc finalement, je me suis prise au jeu.
Et aujourd'hui, vous êtes membre associé de l'ENS de la rue d'Ulm et de la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu.
Oui.
Et vous enseignez en classe préparatoire.
Oui.
À Cergy-Pontoise.
Tout à fait.
Et vous en avez fait un récit d'ailleurs de votre enseignement en classe prépa, ça s'appelle La Relève, un livre qu'on peut trouver aux éditions du Cerf, un portrait d'une jeunesse de banlieue, dans lequel vous racontez à la fois votre expérience, mais aussi cette jeunesse-là, c'est un vrai concept pour le coup, à laquelle vous transmettez ce que vous savez. Et c'est un ouvrage qui est à la fois un témoignage, en même temps une réflexion assez concrète sur les conditions d'enseignement de la philosophie aujourd'hui.
Oui, c'était une envie que j'avais depuis longtemps de restituer quelque chose comme un parcours, enfin des parcours de vie d'élèves sur lesquels au début on n'aurait sans doute pas parié. Je voulais montrer ce qui est possible, là où parfois, un peu par principe, on dit que pas grand-chose n'est possible. Donc, comme j'enseigne depuis presque une quinzaine d'années, et que grâce aux réseaux sociaux, parce que ça a aussi des aspects positifs, on reste beaucoup plus facilement en contact avec d'anciens élèves ou d'anciens étudiants, j'ai pu garder contact avec certains d'entre eux et suivre leur parcours, leurs évolutions, les bifurcations inattendues de leur cheminement professionnel et personnel. Et je voulais raconter des histoires qui sont pas toutes des belles histoires. Il s'agit pas d'idéaliser les parcours de ces jeunes qui viennent de banlieues parisiennes. Mais je voulais saisir quelque chose de ce temps quand même incroyable où il y a des possibles, il y a des métamorphoses, il y a des doutes, des incertitudes. Enfin, il y a un moment d'une grande intensité existentielle. Je trouve ça toujours très émouvant.
Et vous pensez qu'on peut transmettre ce goût pour la philosophie et qu'elle est utile dans ces moments-là ?
Ah oui, 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 oui. Sinon, j'arrêterai d'enseigner.
Mais rien de plus. Enseigner un texte, c'est facile. Enseigner le goût pour la philosophie, c'est plus difficile.
Alors, en tout cas, le goût pour la réflexion, leur transmettre la certitude que ça les aidera leur apprendre la distance critique aussi, mais une distance efficace, pas seulement juste l'ajout verbal ou la réplique ou le bon mot, mais vraiment leur donner des instruments qu'ils aient, non pas qu'ils aient besoin d'être moins naïfs, parce qu'ils ne le sont pas, je crois, mais oui, quand même leur donner des armes pour savoir où trouver des arguments, des idées, des repères à des moments où ils peuvent aussi être perdus. On a quand même des textes qui nous sauvent, donc être là pour indiquer quels sont les textes qui peuvent nous aider dans des moments difficiles, je trouve que c'est un bon rôle.
La maladie, le corps, la jeunesse, l'absence de repères, les textes qui nous sauvent, mais aussi parfois la musique dans votre tête, Claire Marin. À côté des textes qui vous sont chers, et on va en parler juste après, on trouve ceci.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi pour ce nouveau numéro de Profession Philosophe. Aujourd'hui, en présence de la philosophe Claire Marin. Que sommes-nous en train d'écouter, Claire Marin ?
Nous écoutons Nina Simone. C'est drôle parce que en l'écoutant plusieurs fois, je me rends compte qu'elle le chante dans l'ordre qui lui plaît. C'est-à-dire que les paroles ne sont jamais exactement les mêmes. Elle joue d'une voix sur l'autre. J'avais pas remarqué ça auparavant, mais et donc dans la première partie de la chanson, elle décrit tout ce qu'elle n'a pas. On arrive à un être qui est absolument dépouillé de tout, mis à nu.
I got no love, I got no life, pas de vie, pas d'amour, rien.
Rien, rien, rien. Elle ne possède rien. Elle est réduite à n'être que ce rien. Et puis après, je ne sais pas si on écoute la deuxième partie de la chanson.
Bien sûr.
Mais les choses se retournent. Et à partir justement de son corps, eh bien, tout redevient possible. Il y a cette espèce de noyau dur qui fait que même dans le désespoir le plus profond, le dénuement absolu, le désarroi, il reste cette énergie vitale qu'on entend tellement dans la chanson, qui fait que c'est encore possible, même au fin fond du désespoir, de se relever. Et c'était ça aussi la relève. Hein. C'est qu'est-ce qui nous aide à nous relever. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson.
Et cet élan que vous trouvez en écoutant cette chanson, par exemple Claire Marin, le fait de partir de rien, d'arriver par un renversement, parfois presque magique, on ne sait pas où on puise les ressources pour s'y arriver, faire basculer la situation, est-ce que vous le trouvez en particulier dans la musique, dans une chanson, ou est-ce que ça peut arriver avec un texte justement de philosophie, ou un auteur ?
Oui, les deux sont possibles. Je crois que dans la musique, il y a un effet peut-être plus immédiat, plus irrésistible, un élan qui nous prend immédiatement, et qui nous entraîne, mais il peut y avoir effectivement une phrase d'un auteur qui va déclencher un texte, une réflexion, quelque chose. Ça peut avoir le même effet, effectivement. Et c'était ça, les petites phrases que j'écrivais dans les carnets, c'est cette phrase qui va donner par la suite. Par exemple, j'ai eu cette impression-là avec certaines phrases d'Henri Michaud, voilà, qui à partir de voilà de petits passages de poèmes, tout d'un coup poser la question de l'identité d'une manière qui me semblait très neuve, très stimulante, très inquiétante aussi. Donc oui, il y a des phrases qui ont cet effet-là de propulsion presque, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas de donner à la pensée une énergie et un courage pour affronter une question énorme comme celle de l'identité.
Et Henri Michaux qui décrit de manière très douloureuse et violente aussi le rapport à son propre corps, à son identité, à l'absence de lien qui peut l'unir à d'autres personnes. Je pense au poème qui s'appelle « Nous deux encore » qui est absolument terrible, où il décrit en plus une situation à l'hôpital. Mais vous citez, vous citez un poète. Est-ce que cet effet-là qu'on trouve... dans la musique et dans la poésie, est-ce que la philosophie peut nous le donner? C'est une vraie question,
parce que
pas du tout le même ton.
C'est vrai.
C'est souvent, les textes philosophiques souvent sollicitent moins les affects et ont cette, ce que vous disiez, cette espèce de rigueur intellectuelle que l'on recherche et qui parfois, alors peut nous sauver la vie aussi, hein, mais peut-être semble moins nous tendre la main.
Oui, mais il peut quand même y avoir, je crois, des phrases de philosophes qui résonnent de manière très très profonde. Et puis il y a des concepts qui sont tellement abyssaux qu'ils provoquent la réflexion. On a besoin, on a envie d'essayer de les comprendre, d'essayer d'en faire le tour, de voir ce que ça veut vraiment dire que, je sais pas, la négativité chez Hegel. Ou... Mmh. Donc là, on retrouve encore peut-être cette idée de défi. Voilà, on a... quelque chose à escalader, ben on est excité par ce défi-là. Je pense que dans le domaine intellectuel, il y a des parallèles qu'on peut faire face à comme ça des monuments, en tout cas des objets de pensée qui ont un aspect un peu monumental dans l'œuvre d'un philosophe.
Et quels sont les philosophes qui vous aident à vivre, qui vous ont donné envie, qui ont pu vous donner cet élan?
Dans les philosophes qui m'ont marqué, il y a eu pas mal de philosophes du XXe siècle ou du XIXe siècle. Mais avant eux, alors je vais faire les choses dans l'ordre. Dans les philosophes qui ont été importants, il y a eu les stoïciens quand j'étais très jeune. J'aimais bien la radicalité de la morale stoïcienne. Il y avait là aussi quelque chose comme une vie... qui était tellement exigeante qu'elle devenait fascinante. Et puis j'ai beaucoup aimé lire et relire Montaigne. Et là encore, on voit toujours un peu cette espèce d'ambivalence qui est la mienne, c'est-à-dire de ne pas séparer philosophie et littérature, d'y puiser de la même manière, de ne pas considérer que les philosophes seraient plus philosophes que les écrivains, ou que un écrivain est pas complètement philosophe, j'aime pas trop cette idée. Montaigne, et puis dans la même lignée, Sartre par exemple, qui est aussi à cheval sur les deux disciplines. Et un philosophe qui m'a beaucoup accompagnée, c'était Bergson, et c'est toujours Bergson, parmi les influences importantes, jusqu'à Ricoeur par exemple, dans les plus contemporains.
Est-ce que l'expérience de la maladie a changé vos affinités philosophiques?
Oui, parce qu'elle m'a rendue un peu intolérante, ou en tout cas impatiente, et j'ai eu du mal à trouver dans la philosophie des textes qui m'aident vraiment à penser ce qu'était l'expérience concrète de la maladie. C'est-à-dire que la maladie, c'est une figure du négatif, c'est une figure du dysfonctionnel, etc. Ce sont des exemples illustratifs dans les textes de philosophie. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que d'être malade? Et l'analyser, non pas pour savoir ce que c'est que la normalité, mais pour savoir ce que c'est en tant que tel que cette expérience, ce que ça détruit, ce que ça annihile dans le sujet, ça c'est dans la littérature, c'est dans les films aussi, il y a là aussi un corpus extraordinaire. Mais je trouve que ça manque cruellement de la philosophie. Ça rejoint ce que je disais tout au début de notre émission, c'est-à-dire que il reste des sujets majeurs dont la philosophie, me semble-t-il, ne s'est pas emparée. Et il me semble que c'est pas innocent que ça soit encore des sujets qui touchent à l'expérience corporelle, charnelle, qui reste malgré tout un tabou du corporel dans la philosophie.
Il y a un terme que vous n'avez pas encore prononcé, qui pourtant est à l'origine même sans doute de votre goût pour la philosophie et pour tout philosophe, c'est celui de désir. Vous parlez de défi, mais il y a aussi le désir. Et qui dit désir, dit l'être des, comme Deleuze.
Quand une femme dit « je désire telle robe, tel chemisier », c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. C'est le désir dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais des gens qui sont ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble.
Alors, je ne sais pas s'il y a encore des femmes qui désirent des chemisiers comme les Videleuses, hein, c'est dans l'ABCDR en 1989 avec les entretiens avec Claire Parnet. D comme désir, c'est vous qui avez suggéré cet extrait, Claire Marin.
Oui, j'aime bien cette idée d'un agencement, l'idée que finalement le désir comporte à quelqu'un ou à quelque chose. Est très relatif à beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Enfin, c'est toujours très compliqué. On a l'impression d'être l'objet du désir de quelqu'un d'autre. Et en fait, on est un élément dans tout un ensemble. Ça rend humble. Et puis, ça montre aussi toute la complexité, justement, du désir amoureux et son caractère... sans doute naturellement éphémère, puisqu'on n'arrive jamais à maîtriser l'agencement qui est fait autour de nous, dans le fantasme de l'autre. Donc, il y a quelque chose, je crois, d'un peu rassurant, pour ceux qui voient le désir disparaître, d'inquiétant aussi pour ceux qui vivent dans le désir et qui craignent de le perdre, mais aussi quelque chose de très excitant, à savoir que beaucoup d'autres agencements sont possibles.
Vous écrivez dans Hors de moi, le seul désir qui ait encore sa place ici est le désir de l'instant. Un désir fou qui n'engage pas, qui se consume dans la minute où il se réalise, qui ne laisse pas de traces, qui profite des moments de répit de la douleur pour renverser la violence et en faire un instrument de plaisir. Là, l'expérience elle-même montre à quel point une réflexion, une description du désir est complètement dénuée de toute forme de morale, d'objectivité. C'est quelque chose qui s'empare de nous.
Oui. Avec aussi le contexte particulier de l'extrait que vous venez de lire, à savoir comment la vie revient dans le corps abîmé ou mutilé par la maladie, sous quelle forme et avec quel type de violence. Et c'est pour ça que le désir en est un indicateur très fort, il me semble. C'est quelque chose qui se lit aussi, par exemple, chez Philippe Forest, dans son texte « Nouvel amour ». Philippe Forest écrit sur la perte tragique de sa petite fille, sur le deuil, et puis il écrit après « Nouvel amour ». Et à un moment, il parle de cette effervescence amoureuse incroyable qu'il expérimente à un moment où il devrait juste être abattu, désespéré, totalement apathique. Et il dit bien comment, finalement, une épreuve tragique laisse en nous une trace, on pourrait presque dire une trace du néant, je crois qu'il dit quelque chose de ce type, ou en tout cas une trace de la violence qu'on a subie, et que cette violence, elle transpire dans la forme très étrange, mais ça c'est quelque chose que je voudrais développer peut-être plus tard, que peut prendre... le désir, dont c'est l'espèce de fureur et totalement immorale, comme vous l'avez bien vu, cette forme très aveugle et très égoïste que prend le désir quand on sort d'une catastrophe. Et je crois que là aussi, il y a quelque chose d'un peu inexploré sur les variations des formes du désir en fonction des épreuves de la vie. Je crois qu'il y a une trace de la dévastation et que le désir, dont ce qu'il a aussi de proche avec la mort, la mise à mort, etc. Enfin, ce que Bataille a très bien dit dans l'érotisme, se découvre d'une manière très effrayante après la tragédie, la catastrophe, l'épreuve.
Parce que le désir n'est pas que du côté de la vie, non, justement, et même de l'affect positif. Il peut y avoir un désir suscité, comme vous le dites, par la catastrophe, par la mort. Pas forcément un désir de catastrophe, d'ailleurs, non. Mais suscité par. C'est non, quoi? C'est comme un instinct de survie ou...
Alors, c'est ce qu'on aurait spontanément envie de dire. Ce que dit Forest, si je l'ai bien lu, c'est que on a été traversé par cette violence, qu'elle reste en nous et qu'on a besoin de l'exprimer et que dans l'acte sexuel, il peut y avoir quelque chose de cette agressivité, cette pulsion de violence, quelque chose de l'ordre de Thanatos, hein, sans doute, qu'on peut jouer ou mimer sans véritablement détruire, sans devenir soi-même un agent qui soit à la source du mal de l'autre. Donc ça, c'est peut-être un cadre qui offre un défouloir, en tout cas un transfert de violence ou un lieu d'expression de cette violence qui s'est engrainée en nous lors du drame.
Ce qui est une manière aussi pour le corps de se rappeler à nous, puisque vous décrivez les expériences de dépossession de votre corps qui vous propulse littéralement hors de lui-même, puisque vous ne le reconnaissez plus, c'est un corps malade qui n'est plus ce que vous étiez. Et en même temps, le désir, c'est une manière aussi pour le corps de se rappeler à vous, de dire, vous désirez à travers moi.
Tout à fait, c'est ici... sentir de nouveau son corps autrement que sous la modalité de la douleur et voir réapparaître une énergie dont on craignait qu'elle soit définitivement interdite ou donc oui, il y a le retour à soi passe par cette réappropriation du corps qui est un corps nouveau, c'est-à-dire qui est un corps qui a perdu des possibilités parfois, qui est un corps qu'il faut se réapproprier, avec lequel il faut créer des familiarités, mais du coup que je peux aussi utiliser autrement. C'est ça aussi qui, dans le meilleur des cas évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas forcément un retour aussi joyeux au corps après la maladie, mais quand c'est possible, c'est aussi l'occasion d'inventer des nouvelles, un nouveau rapport au corps, un nouveau regard sur ce corps.
Et une manière de composer avec la douleur, forcément. Qui dit maladie, dit douleur.
Oui, il y a des stratagèmes ou des pactes à conclure avec ce corps qui a ses nouvelles exigences. Oui.
Avant de pénétrer dans votre atelier d'écrivain et de philosophe, encore un extrait qu'on trouve quand on s'approche de votre tête.
Guys, this is Nessa.
Hey.
Hello, I'm Francis.
Where is Sophie these days?
Busy with work.
Which Sophie?
Sophie Levy.
Get out. I fucked her little brother.
Oh, you fucked Thomas.
Yeah. You fucked who?
Wait, how do you know her?
We went to college together and we're the same person.
Oh, you're that Francis.
But we have different hair.
Who's Thomas?
And that's what we say. Yeah, I'm that Francis.
I try, c'est ce que dit le personnage de Frances A dans ce film réalisé par Noah Baumbach en 2013 avec Greta Gerwig dans le rôle de Frances. Effectivement, c'est une jeune New-Yorkaise qui rêve de devenir chorégraphe et qui en attendant s'amuse avec sa meilleure amie, s'égare un peu en réalité. C'est ça qui vous plaît dans ce personnage ?
Oui, j'aime bien ce côté un peu indécis, cette légèreté, cette inquiétude en même temps. J'aime bien ce film qui présente un entre-deux de la vie. C'est aussi ce que j'avais aimé observer chez mes propres étudiants. Ce côté, en plus, le personnage est vraiment attachant parce que c'est tellement facile de s'identifier à cette jeune fille qui est maladroite, qui dit jamais exactement ce qu'elle devrait dire, qui est pas vraiment encore une personne. Elle dit à un moment, I'm not a real person yet. Donc,
ça va arriver.
Pas encore. dire ah, je suis vraiment désolée, mais je suis pas tout à fait une vraie personne. Et je trouve que le film rend vraiment très bien à la fois cette période de la vie où on est dans une espèce de vagabondage entre les amitiés fusionnelles, les amours incertaines, les lieux qui changent tout le temps. Le film est fait par chapitres qui sont autant d'endroits où elle déménage, etc. Rien n'est sûr, rien n'est posé. Ses rêves sont délirants puisqu'elle est quand même très maladroite. Elle se rêve en grande danseuse. Et il y a quelque chose, je trouve, de très touchant et qui décrit aussi une angoisse plus profonde. Qu'est-ce que c'est que devenir adulte et à quel moment on décide de se poser dans une situation, une relation, une profession? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce qu'on peut pas continuer un peu à papillonner comme ça, à flotter? Pourquoi il faudrait être dans quelque chose d'achevé? Donc il y a à la fois une immaturité très légère et je crois une question quand même beaucoup plus profonde. Quand je choisis d'être, puisqu'on nous demande de choisir d'être ici ou là, Bergson disait on renonce, on abandonne derrière soi des possibles. Et je trouve cette idée absolument terrifiante. Pourquoi il faudrait les abandonner? Il dit il n'y a que le romancier qui se sert de ses possibles pour en faire des personnages. J'aimerais penser que non, qu'il reste en nous des possibles et qui sont des ressources justement pour traverser les épreuves. C'est-à-dire s'il nous reste aucun possible, si on est enfermé dans un seul personnage toute notre existence, qu'est-ce qui se passe quand ce personnage est détruit, démoli par une épreuve dramatique? Donc je crois qu'on garde nos petits possibles et même qu'on a des vies parallèles, qu'on n'est pas une seule personne évidemment, on est plusieurs, ou en tout cas personnages concomitamment, selon des lignes mélodiques sans doute différentes, avec des modalités d'affirmation ou de présence qui varient. Mais je crois qu'il reste quelque chose de cette indécision que le personnage de Frances montre bien.
Oui, parce que c'est la jeunesse ou c'est la vie, au fond, oui, qu'elle montre. C'est pas forcément le propre de la jeunesse. L'égarement, l'hésitation nous accompagnent bien longtemps.
Oui.
Et peut-être dans le meilleur des cas, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est ce que j'espère même.
Et alors, ce fait de se ressaisir des possibles, c'est peut-être aussi une invitation à écrire, justement, ce que vous disiez de Bergson.
Tout à fait. Oui, je crois que c'est certains possibles, on les déploie dans l'écriture, bien sûr.
C'est ce que vous faites?
Oui, je pense. Je pense que c'est une modalité de mon identité. Alors, c'est très prétentieux, mais en tout cas c'est un élément de mon identité qui me paraît essentiel, qui a toujours été présent depuis que je suis petite. C'est vraiment, j'aime faire ça.
Faire quoi?
Écrire. Peu importe la qualité de ce qui est produit, mais je crois que c'est un plaisir et un exercice qui m'a toujours accompagnée et qui est une autre façon d'être, très clairement.
Et vous arrivez à identifier quels sont ces possibles que vous explorez dans l'écriture et que vous n'explorez pas dans votre vie quotidienne?
Je crois que dans l'écriture, il y a une confiance qui n'existe pas ailleurs. En tout cas, dans ma vie, il y a quelque chose de plus assuré, de plus déterminé peut-être que dans les situations réelles où je vais être beaucoup plus hésitante, incertaine, etc. Il y a ce qui revient à cette idée d'évidence que j'évoquais. Il y a quelque chose, de plus sûr, de plus, je sais pas comment le dire autrement.
Et pourtant, quand on écrit, souvent c'est pour être lu et donc lu par beaucoup de personnes. C'est quelque chose de terrifiant.
Ça veut pas dire que j'écris dans la sérénité, un état d'esprit tranquille en étant sûr que ce que j'écris est important. Pas du tout. Absolument pas le cas, mais malgré tout, c'est une activité dans laquelle j'éprouve une forme d'assurance plus grande, comme si c'était un geste que je savais faire, je sais pas, c'est comme si, comme certains peuvent se sentir à l'aise dans une activité sportive, avoir l'impression que c'est quelque chose qu'ils font avec facilité et aisance. Je peux avoir ce sentiment, ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas inquiète de ce que j'écris, mais c'est le plaisir effectivement de ce geste ou de cette posture que ça implique de la bulle aussi dans laquelle ça met, d'être accompagné tout au long de la journée par un texte continué, chapitre dans sa tête, d'avoir des phrases et de se lever pour les noter parce que demain matin on les a oubliées. Voilà, j'aime bien cette modalité d'être là que l'écriture induit.
Vous avez un rituel d'écriture ?
Non, pas du tout. Mon problème, c'est que souvent mes idées me viennent à des moments où je ne peux pas les écrire. Par exemple, sous la douche.
C'est vrai que c'est vraiment l'endroit où on ne peut pas écrire.
La douche ou la vaisselle peuvent être des moments très propices à la surgissement des idées. Donc ça, c'est problématique. Ou le soir, effectivement, au moment de l'endormissement, quand tous les soucis s'apaisent, se calment, là, les idées peuvent émerger. Et il faut lutter contre la tentation de s'endormir.
Et là, il faut se relever et écrire et prendre
oui,
des notes.
Oui, ou alors il faut trouver un moyen mnémotechnique pour être sûr qu'on s'en souviendra le lendemain matin. C'est le petit truc que je développe.
Ça marche ?
Oui, j'associe visuellement une chose que je vais forcément prendre le lendemain matin aux deux mots-clés que je veux développer par la suite.
Et il y a un endroit, un lieu où vous aimez particulièrement écrire ?
J'écris souvent bêtement chez moi. Ça peut m'arriver d'écrire dans des cafés parisiens, selon le parfait cliché.
Vous n'avez pas besoin d'un contexte particulier pour écrire ?
Non, parfois j'écris dans le RER, qui est loin d'être l'endroit le plus tranquille. Donc non, j'ai pas de rituel spécifique. Je constate que les rituels ne fonctionnent pas tellement sur l'écriture. En tout cas, en ce qui me concerne, que les années où mon emploi du temps me permettait d'avoir des plages libres régulièrement, une fois par semaine, et où je m'étais fixée bien scolairement de travailler tous les matins, etc., des jours qui étaient libres, je constate que ça n'a pas fonctionné. Ça a donné des manuscrits qui ont été refusés. Donc le cadre imposé, dans mon cas, n'est pas efficace.
Donc ça vient toujours en plus d'écriture, oui. En plus de ce que vous faites, en plus de votre métier, de votre vie.
Ouais, ça, mais c'est le surplus nécessaire.
Voilà, c'est épuisant mais nécessaire.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que vous concevez votre travail d'écrivaine, d'enseignante, comme une forme d'engagement, peut-être politique ?
Alors peut-être plus social que immédiatement politique, mais c'est amené. Étant donné le type effectivement de questions qui m'ont intéressée à être aussi politique, je crois que le travail que j'ai fait effectivement sur ce qu'est la santé, ce qu'est une relation, on va dire suffisamment bonne entre un patient et un médecin, ces questions-là, oui, c'est des enjeux sociaux, politiques et économiques, malheureusement, qui sont fondamentaux. Je crois que c'est une manière d'identifier et d'essayer aussi d'identifier des problèmes et d'essayer de proposer des pistes pour améliorer les conditions dans lesquelles les patients sont diagnostiqués, reçus, traités, soignés. Donc il y a une dimension sociale en ce sens-là.
Bonjour Madame Richard, je m'appelle Benjamin, je suis l'interne qui veut m'occuper de vous.
C'est le dossier de l'entrante ?
Oui.
Alors quoi ?
Je viens de la voir, j'y comprends rien.
C'est calme pour moi ce matin, tu veux que je t'aide ?
Ouais.
Bonjour Madame Richard, je suis venu pour parler un petit peu avec vous et pour vous examiner.
Oui.
Vous avez mal ?
Oui.
D'accord. Regardez. 0, c'est si vous avez pas mal.
Oui.
Et 10, c'est la douleur maximum de ce que vous pouvez imaginer.
Oui.
Vous direz que vous êtes à combien maintenant ?
8-2, d'accord.
Vous êtes interne ?
Oui.
Vous avez de la chance de travailler avec un médecin comme lui.
Vous avez de la chance de travailler avec un médecin comme lui, ni cette patiente dans le film de Thomas Lilti, Hippocrate, en 2014, avec Vincent Lacoste et Reda Kateb, qui sont tous les deux internes à l'hôpital, et là, dans cette relation assez émouvante avec cette patiente, vous avez dit dans un article, Claire Marin, que nous attendons trop de la médecine.
Oui,
est-ce que ça veut dire qu'il faut en fait désinvestir une forme d'attente à l'égard de ce que la médecine peut nous apporter, y compris dans un contexte hospitalier, et qu'il faut mesurer, adapter notre attente à la réalité des conditions de travail de cet espace ?
Alors ce que je voulais dire, c'est que on a une représentation des possibilité offerte par la médecine occidentale qui est en partie fantasmée. C'est-à-dire qu'on est toujours très impressionné des innovations médicales, des possibilités incroyables. Effectivement, on peut greffer un visage, c'est extraordinaire. Mais du coup, je crois que ça fausse beaucoup dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Ça fausse beaucoup les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de la médecine. L'exemple que je prends souvent, il est très simple, c'est celui des prothèses auditives. Quand on sait le nombre de patients qui renoncent à leurs prothèses auditives parce qu'ils les trouvent inefficaces, elles génèrent des maux de tête, elles rendent les assemblées insupportables de cacophonie, etc. D'un côté, ce que je voulais dire, c'est que d'un côté, on a l'image d'un cœur artificiel, des greffes de visage, de prothèses bio-ioniques, etc. De trucs extraordinaires que la médecine sait faire. Et de l'autre, sur des choses très simples, eh bien, remarcher après une prothèse de hanche, entendre correctement avec ses prothèses auditives, en réalité, c'est très très compliqué. Et je trouve que c'est une espèce de mensonge qui est très cruel, parce que quand on tombe malade en Occident, on a beaucoup d'espoir. On croit aussi que quasiment toutes les maladies se soignent, et de fait, beaucoup de maladies qui étaient mortelles sont devenues chroniques, et c'est tant mieux. Mais je crois que le patient qui tombe malade, il découvre aussi brutalement l'impuissance dans certains domaines de la médecine, ou les limites qui sont les siennes, et que c'est encore une fois très cruel de l'apprendre à ses dépens. Et combien de patients disent « mais j'aurais jamais imaginé que ça demande autant d'efforts pour se remettre à marcher, que on a une vision magique en fait du pouvoir de la médecine ». Et le fait que le corps ait besoin d'un temps incroyable pour se remettre à fonctionner normalement, ça reste quelque chose de difficile à appréhender quand à côté de ça, on a des reportages sur des opérations qui paraissent miraculeuses.
Mmh. Et ça, c'est indépendant des conditions d'exercice du métier de médecin à l'hôpital aujourd'hui.
Oui, ça c'est cette espèce de fantasme des pouvoirs magiques de la médecine qui est quand même très alimenté aujourd'hui dans la représentation occidentale. Après, il y a ce vrai problème des conditions dans lesquelles les médecins doivent exercer, les médecins, les soignants, tout le personnel hospitalier doit exercer dans l'hôpital public aujourd'hui, qui est véritablement un scandale. Et qui ajoute à la souffrance, à la déception, au sentiment d'humiliation, de maltraitance que certains patients peuvent ressentir. Et ce, indépendamment du dévouement du personnel soignant. Quand on voit les statistiques de burn-out, de dépression, de tendance suicidaire ou de comportement à risque chez les soignants, on est absolument effaré. Donc il y a deux problèmes en fait. Mmh. L'attente un peu naïve qu'un public non informé spécifiquement peut avoir vis-à-vis d'une médecine miraculeuse qui n'existe pas, même si on a la chance d'avoir une médecine d'un niveau incroyable en Europe et en France en particulier. Et par ailleurs, il y a cette dégradation que des choix politiques absolument aberrants font subir et qui démolit l'hôpital public. Et ça, oui, encore une fois, c'est inadmissible.
Et est-ce que vous êtes inquiète de la même façon pour l'avenir de l'hôpital et pour l'avenir de l'enseignement ? Et en particulier de l'enseignement de la philosophie, puisque c'est votre métier.
Alors, je crois que il y a un parallèle différent, c'est que dans un cas, les questions de vie ou de mort, quand même, il y a quand même des patientes qui meurent en salle d'attente parce que les urgences sont absolument débordées. Donc il y a une proportion quand même ici qui doit être rappelée. Ceci dit, oui, je suis aussi inquiète pour l'école publique, oui, bien sûr, très inquiète de la manière dont on diminue les postes, de la manière dont la réforme fait disparaître de fait des options pour les lycéens, la réforme du bac. Mmh. Puisqu'on nous dit que le lycéen pourra aller faire son option dans un autre lycée si elle n'existe pas dans son lycée. Mais si l'autre lycée est à plusieurs kilomètres, il n'est pas sûr que vous ferez cet effort d'aller dans cet autre lycée.
Est-ce que l'option philo ne sera pas proposée dans tous les lycées en
terminale ? Non, ça concerne plutôt des options comme le théâtre ou les langues qui ne sont pas dispensées dans l'établissement. Mais par exemple, dans mon établissement à Cergy, l'option théâtre va disparaître, ce qui veut dire que et on sait à quel point le théâtre est essentiel pour certains élèves, peut les sauver quand même d'une violence intérieure ou les aider à l'exprimer ou à la manifester autrement. Voilà, par exemple, cette option va disparaître. Donc il y a ici une réforme qui, dans ses effets pratiques, je crois, limite les possibilités de choix de l'élève alors qu'elle prétend en offrir plus.
On en revient à cette importance des possibles qu'il faut maintenir le plus nombreux possible. C'est le cas de le dire. On se quitte chaque jour dans cette émission avec une chanson. Aujourd'hui, le choix de cette chanson vous revient. On en a écouté deux pendant cette émission. Nina Simone que vous avez proposée, David Bowie, Modern Love dans le film de Frances Ha. Est-ce qu'il y a, au terme de cette discussion, est-ce qu'il y a une chanson que vous aimeriez entendre ou écouter maintenant?
Il y a une chanson que j'ai écoutée en boucle récemment qui est la chanson d'une Canadienne qui s'appelle Charlotte Cardin. Et qui s'appelle Dirty Dirty.
On l'écoute?
Allez.
I see the way you want her. You're not easily impressed. Baby, I got more under my dress, but you won't twitch. I see she's got, I see she's got something I don't. You know I'm jealous in my head, 'cause you'd look so good in my bed. Be really like the bitch, so I can cry for my age, my life and my face, and I will wash off
Merci beaucoup Claire Marin d'être
Merci.
Venue nous parler de votre travail aujourd'hui à ce micro. On a parlé de votre livre Hors de moi qu'on trouve aux éditions Alia, qui a été réédité l'an dernier en 2018. Violence de la maladie, violence de la vie aux éditions Armand Collin. La relève, portrait d'une jeunesse de banlieue aux éditions du Cerf. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
You should be ripping off my gown, turning me on. You just send me down, down on my knees. Pretty little tease, so I can cry for my age, my life and my face, and I will wash off all the dirty, dirty thoughts I had about you. And I can cry 'cause I
écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, l'homme marchait pour la première fois sur la Lune. Pour fêter cet anniversaire, plusieurs événements, expositions, livres et films auront lieu toute cette année. Mais comme les choses sont bien faites, paraissait il y a quelques jours, tel un lancement pour annoncer ce cinquantenaire, un cliché révélant la face cachée de la Lune. L'occasion pour nous de faire la lumière sur cet astre de nuit.
Le soleil, rendez-vous avec la Lune. Mais la Lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune. Chacun doit en faire autant. La Lune est là, la Lune est là. La Lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là, et le soleil y attend. Papa dit qu'il l'a vu ça, lui.
À quoi pourrait ressembler une petite philosophie de la lune? Faire la lumière sur un astre qui ne se montre que la nuit n'est-il pas paradoxal? D'autant que l'expression « être dans la lune » exprime le fait d'être distrait, d'être perdu dans ses pensées, loin d'un travail éveillé de la raison. À écouter cette célèbre chanson de Charles Trenet, la lune semble en effet sans cesse nous échapper, jamais au rendez-vous, seulement présente quand la lumière ne l'est plus. C'est la première caractéristique de la lune, toujours comparée au soleil, elle ne brille pas autant que lui, elle ne s'impose pas, elle ne fait pas le jour sur le monde, elle ne l'illumine pas de ses lumières. Faudrait-il en déduire que la lune, pure obscurité, résiste à toute connaissance et ne relève que de la croyance, de la mystique, voire justement de l'obscurantisme? Eh bien non, bien au contraire, car la lune a ceci de particulier que bien qu'elle soit l'envers du soleil, elle n'en a pas moins une identité propre, saisissable, mais une identité qui n'est pas pleine, qui n'est pas constante, une identité discrète et tout en nuances. C'est ainsi qu'Aristote, dans son traité du ciel, lui faisait déjà une place précise et lui attribuait un rôle de partage entre le monde au-delà de la Terre, le supralunaire, et le monde sur Terre, le sublunaire. Et c'est bien ce dernier monde, sous la lune, soumis à ses cycles, à ses variations, à ses constance qui faisait de la Terre le lieu de l'altération, du changement, de la nuance.
Mes chers collègues, vous savez quel progrès immense nous avons fait accomplir à la balistique. Et nul ne peut mesurer où nous serions arrivés si la paix n'avait pas malencontreusement interrompu nos efforts. Vous savez donc que la résistance des canons et la puissance de la poudre sont illimitées. Qui nous empêche alors, au moyen d'un appareil suffisant, d'envoyer un boulet dans la lune?
Un boulet dans la lune?
Un boulet dans la lune? Mes chers camarades, avant de nous réunir, j'ai donc étudié la question. Et aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est de tenter cette expérience.
Si l'on tente de retracer très rapidement une histoire de la lune, force est de reconnaître qu'elle a occupé une place de choix. Qu'il s'agisse des manuels scientifiques, de cosmologie, d'astronomie, des traités ésotériques d'astrologie ou des récits littéraires, il existe même un genre appelé fiction lunaire. La discrétion de la Lune n'a pas empêché son omniprésence dans le savoir et l'imaginaire. Mais quel rôle a-t-elle joué précisément ? On pourrait dire que malgré sa dimension scientifique, le terme même de lune invite tout de suite à la rêverie ou à la confidence, à se laisser aller à l'imagination, à la divagation, la nuit, au chaud, dans son lit. C'est la berceuse au clair de la lune, c'est le beau titre du film de Kenji Mizoguchi, Les contes de la lune vague après la pluie. C'est le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, dont on vient d'entendre un extrait, où la lune, même quand elle est l'objet d'une conquête spatiale, apparaît comme l'inconnu, le caché, l'inatteignable sur lequel on projette tous nos fantasmes. Et puis c'est aussi l'histoire comique des États et empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac, dans lequel les habitants de la Lune font tout le contraire des humains. C'est comme si la Lune, tout en nuances, en discrétion et en délicatesse, symbolisait à travers de multiples récits ce qui précisément ne doit pas se dire, le secret.
Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm going to step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Mais que faire désormais de toute cette philosophie lunaire, alors même que la Lune n'est désormais plus un secret, alors même qu'on l'a conquise, qu'on l'a foulée? Arendt, dans son prologue de 1958 à la condition de l'homme moderne, 11 ans avant les premiers pas sur la Lune, avait pointé ce désir humain de s'échapper de la Terre pour conquérir l'espace et la Lune. Mais n'était-ce pas le cas avant, en fait? La Lune n'était-elle pas déjà le lieu où devaient se loger nos secrets, nos fantasmes, nos désirs? Aurait-elle perdu son aura et de sa valeur dès qu'elle a été vraiment parcourue? Eh bien, d'une certaine manière, oui. Si la Lune, comme l'a analysé Mircea Eliade dans Une nouvelle philosophie de la Lune en 1943, avait une fonction métaphysique de lien entre les hommes par rapport à un au-delà, sa conquête a aboli cette fonction. La Lune n'est plus un au-delà, l'objet du secret et d'une quête, mais fêter les 50 ans des premiers pas sur son sol nous rappelle quand même qu'il y a encore de la place pour cultiver cet au-delà dans nos esprits et nos imaginaires, en nous, tout simplement.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui prépare chaque émission chaque jour. Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission, Anthony Thomasson qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série. Lundi, on vous proposera une philosophie du gore. Au programme, l'esthétique de la charogne, le sang à l'écran, une anthropologie des zombies et l'escalade du gore dans les jeux vidéo. La semaine prochaine, nous convierons Aristote, Platon, Canguilhem et Baudelaire pour vous proposer une philosophie du gore. D'ici là, pour réécouter cette émission en compagnie de Claire Marin ou bien de la série d'émissions qui précède sur Lévinas, sachez que c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve lundi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.